questions.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour remettre en question l'histoire du grand méchant loup et surtout de ses relations avec les hommes en tentant de comprendre pourquoi tout a changé en quelques décennies et comment cette relation entre l'homme et le loup s'est carrément inversée d'ennemi public numéro 1 pendant plus de 2000 ans d'animal à abattre. Le loup est en effet devenu un animal protégé. Qu'est-ce que ce retour du loup, du sauvage, révèle de nous et de nos sociétés? Pourquoi suscite-t-il tant de controverses et de clivages? Faut-il avoir peur du loup? Comment ne pas en perdre ni la raison ni la mémoire? C'est ce que nous allons chercher avec notre invité, l'historien du loup, Jean-Marc Morisseau, autour de la question comment vivre avec le loup. Bienvenue. Bonjour Jean-Marc Morisseau.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de la ruralité et de l'histoire du loup, professeur à l'université de Caen et membre de l'Institut universitaire de France, auteur de nombreux ouvrages, Histoire du grand méchant loup, L'homme contre le loup. Vous êtes à l'origine également du site internet Homme et loup et c'est vous qui avez organisé et coordonné en France les premières rencontres qui ont rassemblé tous les acteurs et chercheurs concernés en Europe pour un symposium intitulé Vivre avec le loup, point d'interrogation. Leurs contributions sont rassemblées dans un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Talendier. C'était vraiment une première, Jean-Marc Morisseau, presque un défi, j'imagine, de rassembler à Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, site emblématique du loup, tous les protagonistes de la question pour faire un état des lieux, pour renégocier le difficile contrat entre l'homme et le loup.
Je crois qu'on est dans une situation d'urgence, effectivement, puisque cela fait 20 ans que le loup est revenu. Auparavant, on en a parlé comme un animal un peu mythique qui était assez éloigné des réalités de notre territoire.
Il avait disparu.
Il avait même été éradiqué. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, les hommes l'avaient chassé, pourchassé et avaient cherché peu à peu à l'éliminer. Et ils y étaient enfin parvenus dans les années 1930. Si bien que pendant à peu près 60 ans à 70 ans, le loup absent du territoire français a créé une sorte de vide. Et comme, évidemment, la nature a horreur du vide, dans notre culture, le loup a pris des sens tout à fait différents de ceux qu'il avait pendant les périodes historiques. Et je pensais qu'effectivement, il était important de réunir tous les acteurs, tous les représentants des différents partis pour ou contre le loup. Évidemment, travailler avec les bergers et les éleveurs qui sont confrontés directement depuis 20 ans à cette présence du loup, mais également inviter les chasseurs, les écologistes, les administrateurs et tous les acteurs, évidemment, qui sont concernés, aux côtés des scientifiques, à la fois des biologistes, évidemment, mais aussi des vétérinaires, mais aussi des sciences de l'homme et de la société, c'est-à-dire de l'histoire, de la géographie, de l'ethnologie, de la sociologie, parce que le loup est aussi un problème de société.
Un problème avec les hommes autour de la question comment vivre avec le loup. Première piste de réflexion sonore avec le mix Canis Lupus de Guillaume Ploquin.
Une silhouette furtive apparaît à 300 mètres de moi. Ai-je rêvé ? Non, ce sont bien eux, ils sont là. Les loups.
Il règne dans le Gévaudan de cette fin d'ancien régime une misère profonde.
Malgré les prières, la bête s'enhardissait. Elle attaquait maintenant en plein village.
Je pense qu'il existe une fascination du loup toujours présente. Évidemment, le loup, c'est un sujet très polémique actuellement.
Lorsque François Desportes réalisa la chasse au loup en 1725 pour le château de Villejeunisse, Louis XIV était le plus puissant souverain d'Europe. Et quand il n'était pas à la guerre, la chasse était son occupation favorite.
Forte griffe, grosse tête, gueule énorme et queue très fournie qu'elle agite en grognant.
Pour les éleveurs, ils ont un peu le sentiment que le loup les renvoie au Moyen-Âge. Un animal qu'ils avaient réussi à faire disparaître avec l'accord de la société depuis un siècle et demi. La première des polémiques sur le sujet, c'est le retour des loups est-il naturel ? Le retour des loups a-t-il fait l'objet de lâchers clandestins ?
En une nuit ou une journée, on ne sait pas quand le loup a attaqué. Voilà, c'est un troupeau qui est abîmé, un éleveur qui est abîmé.
Pour moi, les choses sont claires, ainsi que si le loup risque d'attaquer un troupeau, la meilleure façon de faire, c'est de prendre le fusil et de tirer. La menace du loup, c'est quelque chose qui fait que les gens ne dorment pas.
On entend aujourd'hui que le point de vue du berger. Être pour la protection du loup, c'est pas être contre le berger, loin de là.
Comment peut-on mieux cohabiter?
Alors comme il n'a pas d'école le loup, eh bien pour l'éduquer, c'est quand il veut venir attaquer des troupeaux, c'est lui dire non, ça ne se fait pas. Le troupeau, c'est pas le garde-manger.
Des loups? Comment ils font les loups?
Jean-Marc Morisseau, que vous inspire ce que vous venez d'entendre?
Eh bien, une sorte de malaise, parce que le loup, on en parle tranquillement ici derrière ces micros, comme la plupart des Français et des Européens, dans les villes, bien entendu. Mais le loup, c'est une réalité que vivent au jour le jour des centaines d'éleveurs et de bergers qui, eux, ont une toute autre vision de l'animal. Et ce qui me gêne toujours quand on parle du loup, c'est que les idées du plus grand nombre ne sont supportés en réalité avec toutes les conséquences qu'il y a derrière que par une petite minorité. Et alors que loup, dans l'histoire, c'était auparavant extrêmement différent.
Et justement, dans l'histoire, puisque vous êtes historien, Jean-Marc Morisseau, autour de la question comment vivre avec le loup, on ne pouvait pas vivre avec le loup. C'était une bête extrêmement dangereuse.
Alors avant, en quelque sorte, on en faisait son deuil. On considérait que le loup était une fatalité. Il faisait partie des fléaux naturels, comme les maladies, la peste, ou bien le choléra, et les guerres, et les famines. Et donc, on l'éloignait le plus loin possible du territoire. Des loups, il y en avait partout, puisqu'il y avait 5 à 20 000 loups en France, c'est-à-dire infiniment plus qu'aujourd'hui, de la pointe du Raz jusqu'à l'Alsace, et puis du nord de la France jusqu'à l'Espagne, et on le chassait par tous les moyens. On le pourchassait, car il était l'animal public numéro un, non seulement des paysans, mais qui étaient majoritaires, mais également des artisans et des commerçants, non seulement des ruraux, mais également des gens des villes, parce que les loups attaquaient toutes les catégories animales, comme aujourd'hui d'ailleurs, on l'a oublié. Bien sûr, ils attaquaient les moutons et les ovins, ça on le sait très bien, mais aussi les bovins et les chevaux et les porcins. Et par exemple, s'ils attaquaient les vaches, ils compromettaient le capital des gens des villes, qui plaçaient leurs économies avec ce qu'on appelait le bail à vache, la location de vache. Et si évidemment le veau venait à disparaître ou la vache à être maltraitée par un loup, c'était une perte sèche pour les gens des villes qui plaçaient leurs économies.
D'où la création par différents rois de quoi, de sorte de régiments spéciaux, enfin chargés d'abattre les loups.
Une institution spéciale. Mais j'oubliais aussi les chevaux, hein, c'est très important, qui assuraient les transports et l'industrie, qui pouvait être également comme les mulets attaqués par les loups. Donc ça perturbait l'industrie, le commerce, l'agriculture, si bien que tout le monde était d'accord pour lutter contre le loup.
Donc consensus contre le loup.
Oui, sauf on ne savait pas nécessairement comment et qui avait le droit davantage que d'autres. Il y avait des tensions pour savoir qui avait le privilège de s'attaquer d'abord au loup. Mais sinon, effectivement, les rois de France ont édicté une législation. Le loup est le seul animal qui ait fait l'objet de la part des pouvoirs publics dès 1583 d'une ordonnance, d'un texte de loi qui ordonnait pour toute la France des battues 3 fois par an dans tout le territoire français. Il est vrai qu'il y avait eu des attaques sur l'homme aussi extrêmement nombreuses.
Et sur, il y avait des petits chaperons rouges, vous avez recensé les attaques, oui, il y a des enfants qui étaient attaqués par les loups.
Effectivement, dans les années 1560-1590,
c'est pas une légende.
On a recensé des centaines de cas, mais c'est une goutte d'eau par rapport à la réalité, parce que les archives sont évidemment extrêmement anciennes et réduites. En revanche, 100 ans plus tard, à l'époque où Perrault écrit Le Petit Poucet et Le Petit Chaperon Rouge, ce sont des milliers de victimes qui surgissent dans les archives de tous côtés, parce que là, effectivement, à l'époque du Petit Chaperon Rouge, il y a une véritable réalité. On a une époque également de famine, hein, de grande crise, mais le loup, il trouve son compte.
Ou le loup, il s'attaque au quoi? Toujours aux plus faibles, oui, et aux failles, en fait, de nos sociétés humaines, quand même.
Il peut s'attaquer.
Il est intelligent, le loup, ce prédateur.
Le loup est un animal que l'on peut considérer de manière anthropomorphique, comme intelligent, même si le terme peut prêter à discussion. Disons que c'est un animal qui s'adapte à toutes les situations et qui est capable de bien discerner les maillons faibles de l'organisation humaine et des rapports entre l'homme et son territoire. Et en période de famine, évidemment, quand il y a des enfants qui sont en quelque sorte faméliques, qui gardent des vaches aux portes des forêts, qui sont très fragiles et très vulnérables, quelques loups prédateurs, il ne faut pas généraliser, quelques dizaines de loups prédateurs simplement attaquaient l'homme et pouvaient faire de 1 à 10, 20, 30 ou 50 victimes. Donc cela pouvait faire des centaines de victimes par an, ce qui n'était pas rien. Mais ce qui, par rapport aux millions, par exemple, de victimes de la fièvre typhoïde lors de la grande famine de 1693-94, n'était que secondaire.
Autour de la question « Comment vivre avec le loup ?» d'hier à aujourd'hui, la chanson du loup d'Alain Bachung sur RFI.
loup qui jadis était très méchant, mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents sur une grand-mère solide comme un roc. Tout est à l'envers, c'est une triste époque. J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien. Elle me promène et je lui mange dans la main. Si je ne file pas droit ou bien si j'ai tort, tout est à l'envers, c'est elle qui me mord.
Pauvre loup,
pauvre loup. Jamais vraiment mangé le chaperon rouge. Ça c'est des histoires qu'on raconte au fond des bouches. Ce petit enfant blond était loin d'être bête. Il n'a jamais tiré cette sacrée chevillette. Débarrassez-moi vite de cette grand-mère. Je suis prêt à tout, à ramper, à me tordre, mais je vous en prie qu'elle cesse de me mordre.
Pauvre loup, pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup, pauvre loup,
pauvre
loup,
pauvre loup,
pauvre loup.
La chanson du loup d'Alain Bachung sur RFI, pauvre loup, Jean-Marc Morisseau qui se fait mordre par la grand-mère, qui ne fait même plus peur aux petits-enfants, c'est une inversion complète à laquelle on assiste aujourd'hui.
Tout à fait normal, qui avait même été prévu par les derniers témoins des attaques de loups. Les derniers témoins des attaques de loups, c'étaient ces petits-enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans, qui gardaient des vaches vers 1860, 1870, et qui sont morts en 1940 ou 1950, et qui par leurs lettres, par leurs écrits, par leurs témoignages, ont témoigné encore que le loup était un animal dangereux dont ils avaient effectivement peur.
Ils avaient peur aussi qu'on perde la mémoire du loup.
Oui, et on a des textes, des lettres tout à fait étonnantes des années 1930-1940, comme de ce naturaliste de l'Indre qui s'appelait Rollina, et qui disait que le loup était une espèce animale qui avait été évidemment particulièrement dangereuse pour les activités humaines en général, et occasionnellement même pour la sécurité de l'homme, et il avait multiplié tous les écrits là-dessus en disant qu'après on ne le croirait plus une génération après, quand l'homme aurait eu gain de cause en ayant éradiqué le loup, eh bien il y aurait plus de réalité manifeste à l'appui de la culture historique du loup, si bien que cette culture en viendrait à s'effilocher. Et il avait tout à fait raison. Cet effilochement commence vers 1950-1960. En 1950, il y a encore une prime qui est accordée à un chasseur de loups en 1954.
Et aujourd'hui, il y a des amendes pour les chasseurs de loups. On va y revenir, Jean-Marc Morisseau, autour de la question comment vivre avec le loup. Je propose d'abord un éclairage pour le moins original et renversant. Écoutez, c'est celui de l'éthologue Pierre Jouventin.
Je suis à l'origine d'une histoire de fou. Alors c'est tout à fait par hasard, c'est un directeur de zoo qui m'a dit, je sais que vous m'avez dit que votre femme était une fana des loups, vous savez que c'est possible d'élever des loups, est-ce que ça vous intéresse? Je vais être obligé de les piquer parce que les amis des bêtes veulent plus qu'il y ait de loups dans les zoos et donc j'arrive pas à les vendre, est-ce que vous voulez en prendre un? Donc je l'ai proposé à ma femme et à mon fils de 10 ans, il était enthousiaste, je l'ai fait venir dans la maison, ça a duré 5 ans et j'étais le premier au monde et j'espère le dernier à élever un loup en appartement.
Et qu'est-ce que vous avez découvert en élevant?
Justement, je pensais que je ne découvrirais rien du tout parce que je pensais que c'était des conditions tellement artificielles qu'on ne pouvait rien trouver, mais j'ai pas pu m'empêcher de réfléchir en tant que professionnel de l'éthologie. Et surtout, j'ai découvert un truc qui ne peut apparaître que dans une meute, et dans la famille avec notre loup, c'était un problème de meute, c'est-à-dire que le loup, c'est pas un problème de communication, c'est un problème de cognition sociale, c'est-à-dire que le loup en particulier, quand il naît au milieu d'humains, il se prend pour un humain. Et donc, en réalité, la louve ne savait pas qu'elle était louve. Elle était dans le groupe, elle était en famille, elle était dans le clan, elle était dans la meute de notre famille.
Dans votre meute, hein, dans alors, la meute de Pierre Juventin.
Ce qui fait que j'ai découvert l'altruisme chez le loup, qui était inconnu par les spécialistes. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand on allait sur le balcon, elle nous tirait par le pantalon. Quand ma femme se penchait à la fenêtre, elle tirait par le coude. Quand elle était en train de se laver dans sa baignoire, elle tirait par le coude. Et ben, je l'ai compris quand une fois on est allé se baigner dans l'Hérault à quelques kilomètres de Montpellier et que 10 fois de suite elle est allée chercher ma femme et la ramener à la rive. Et d'ailleurs c'est la première fois que c'est décrit chez le loup.
Un loup qui sauve un humain, un loup qui protège un humain.
Voilà. En réalité il défendait pas un humain, il croyait défendre un autre loup. En réalité c'est une base génétique, c'est-à-dire que les loups défendent ceux qui sont de leur famille. Ils ont l'esprit de clan, ils défendent leurs gènes.
Kamala, une louve dans ma famille, c'est le récit assez hallucinant de cette aventure vécue donc par l'éthologue Pierre Juventin. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Marc Morisseau ?
Eh bien, il y a toujours des cas exceptionnels qui peuvent évidemment exister dans l'histoire ancienne ou récente. Et effectivement, les éthologues disent que quand des louveteaux viennent de naître, avant qu'ils ouvrent les yeux, s'ils ont un contact avec l'homme, effectivement, il peut y avoir une sorte d'imprégnation possible. Et après, ils nous disent que c'est quasiment impossible. Quasiment parce que Shaun Ellis, qui est un amateur de loups anglais, raconte dans un de ses livres récents que lui a réussi à percer en quelque sorte la barrière en s'introduisant dans les meutes, en imitant leur comportement, en se prenant comme un loup. Mais alors évidemment, ça suppose un mode de vie qui est tout à fait aux antipodes de notre mode de vie urbain.
Un peu particulier, mais justement, Jean-Marc Morisseau, est-ce que aujourd'hui notre fascination pour le loup, c'est pas aussi cette fascination pour ce côté sauvage, pour une sorte de symbole, alors plus du grand méchant loup, mais de la nature sauvage qui nous manque tant.
Tout à fait. Là, le loup est en quelque sorte emblématique de la biodiversité. C'est le symbole de ce que les urbains appellent le sauvage. Du sauvage, ça fait rire l'historien, puisqu'il n'y a plus de sauvage en Europe depuis au moins le Moyen-Âge et sans doute au-delà encore. Ce sauvage, il a été cultivé, il a été pâturé, il a été organisé par les sociétés humaines au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle et encore au XIXe siècle. Ceci étant, dans notre monde urbanisé qui a perdu toute racine, tout contact avec le monde rural, il est évident que le loup est en quelque sorte un enjeu capital. Au sommet de la chaîne alimentaire, il correspond vraiment à ce que les écologues appellent un super prédateur qui vient là pour remettre un peu de l'ordre dans la nature et qui aussi est un élément particulièrement un bon indicateur de la santé des espaces dits naturels.
Et donc le loup aujourd'hui, qui a toujours fasciné, qui continue de fasciner, il suscite énormément de réactions très très extrêmes. Est-ce que c'est aussi à cause de ça? On a l'impression que finalement on ne peut être que pour ou contre le loup. Alors, on va le voir en deuxième partie, il y a peut-être des positions médianes.
Alors le problème du loup aujourd'hui, c'est que son impact réel ne porte que sur quelques milliers de personnes.
Des éleveurs, des bergers.
Occupe des espaces importants, notamment les alpages de 7 à 8 départements alpins, mais également maintenant des zones d'élevage dans les Vosges et puis dans le Massif central et des zones de plaine, on va y revenir. Alors que 97-98% de la population n'a jamais vu de loup et n'aura pas pour l'instant à se préoccuper de la présence du loup. Donc il y a ce décalage-là. Et ces 97-18% de la population n'ont plus de mémoire récente du loup. Leur mémoire du loup est celle du grand loup canadien qui est venu des grands espaces américains.
Et qui lui a toute la place.
Ou du loup de l'Asie en quelque sorte, qui effectivement a un symbole tout à fait différent du loup européen traditionnel.
Autour de la question comment vivre avec le loup ici en Europe et ailleurs, et comment renégocier le contrat entre l'homme et le loup, c'est ce que nous allons chercher ensemble dans 3 minutes juste après le flash d'info. A tout de suite avec les loups dans la bergerie.
De la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Comment vivre avec le loup ?» Question posée par notre invité, l'historien Jean-Marc Morisseau, dans un symposium et un ouvrage qui rassemble tous les spécialistes de Canis lupus en Europe, historiens, géographes, écologues, sociologues, mais aussi bergers et représentants des associations de protection du loup, car le grand méchant loup, autrefois ennemi public numéro 1, est aujourd'hui un animal protégé, réintroduit depuis 1992, un renversement de situation qui n'est pas sans susciter de nouvelles tensions, de nouveaux conflits entre l'homme et le loup, ce prédateur intelligent, si révélateur de nos faiblesses et de nos ambiguïtés.
Les loups sont des animaux très intéressants, c'est sûr. D'abord, ce sont des animaux sociaux. Ils vivent en harde, et une harde très bien organisée. Et c'est intéressant sur plein de plans, évidemment. L'image du loup, l'importance du loup, y compris l'image du chaperon rouge hein, dans Bettelheim, la psychanalyse des contes de fées, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc il y a beaucoup de choses à raconter sur le loup, oui c'est sûr.
Le loup continue de fasciner Jean-Marc Morisseau pour rebondir sur cet éclairage du généticien et zoologiste Jean Deutsch. Vous qui travaillez en interdisciplinarité sur cette question du loup avec des géographes, des écologues, des sociologues, le loup c'est une question plus transversale qu'il n'y paraît et plus controversée qu'il n'y paraît.
Tout à fait. De toute façon, le loup il est révélateur de tout. Il est révélateur de l'histoire de l'homme, des divisions de l'homme et également du progrès scientifique et des divisions entre sciences. Il est révélateur également de la manière dont on traite l'information, parce que quand vous venez de dire que le loup a été réintroduit, le terme de réintroduction à lui seul est chargé de sens idéologique.
Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ?
C'est-à-dire que rien ne prouve que le loup a été vraiment réintroduit, et pour les scientifiques, pour la majeure partie des scientifiques, tout laisse à penser que le loup est revenu naturellement, mais dans un statut de retour protégé, parce qu'il a été, il a eu bénéficié vraiment d'une protection.
C'est son statut qui a changé, maintenant c'est un animal strictement protégé.
Mais le problème, c'est que non seulement l'opinion publique parle trop souvent de réintroduction, ce qui évidemment a été également un mot utilisé par certains politiques pour favoriser les bergers, parce que s'il y avait réintroduction, on ne pouvait pas considérer que c'était un animal que l'on conservait naturellement, mais c'est un animal qu'artificiellement on aurait réintroduit, et donc on pouvait le sortir de la Convention de Berne. Il y a tout un enjeu juridique, donc il faut faire très attention sur les termes.
Le loup
donc,
est un animal politique, enfin géopolitique.
Évidemment. Donc, on peut considérer que le loup est revenu naturellement, mais je peux pas aller au-delà, parce que les pouvoirs publics eux-mêmes ont pratiqué une loi du silence entre 1987, où il y a déjà un loup qui est détruit, qui venait de l'Italie, le loup de Fontan, et 1993, au printemps 93, quand c'est même la presse spécialisée, avec la presse naturaliste, qui proclame le retour du loup, avant même que les pouvoirs publics ne la reconnaissent. Donc le loup, en quelque sorte, son retour nous a été caché, tout au moins pour une grande partie de l'opinion, par les pouvoirs publics, sous le prétexte que il fallait être absolument sûr qu'il s'agisse de loups, sous le prétexte qu'il ne fallait pas effrayer l'opinion publique, effrayer les éleveurs, et on en paye un peu le prix. Hein, ce péché originel qui est lié quand même à nos politiques.
Parce qu'en fait, le loup, depuis 1992, est une espèce strictement protégée en Europe.
Alors en plus, ce qui est encore plus compliqué, c'est que effectivement le loup, il est protégé par la Convention de Berne de 1979, mais qui n'a été entérinée par la France que bien après, par la directive Habitat, qui est de 1992, c'est l'époque où le loup arrive. Mais surtout, on n'en dit aucun mot.
Et pourquoi ? Parce qu'on a peur des réactions des éleveurs, des bergers ? Alors, parce qu'on a peur que ressurgisse une peur du loup ?
C'est possible. Alors, il est difficile de le dire. Ce qu'il est évident de constater quand on est historien, c'est que les dernières mesures législatives qui sont prises, comme en 1993, en juillet 93, le passage du statut d'animal chassable à animal protégé, en France cette fois, il est organisé juste au moment où le loup revient. Et les personnalités qui étaient en charge au ministère de l'Environnement de l'époque savaient très bien que le loup revenait, et tout se passe comme s'ils avaient voulu boucler le statut juridique du loup pour rendre irréversible en quelque sorte son retour, et dans un statut strictement protégé. C'est-à-dire qu'on est pieds et poings liés avec un statut européen extrême et opposé, inverse à celui qui était le statut du loup antérieurement.
C'est qu'on est passé de la prime pour la chasse au loup à l'amende pour la chasse au loup.
Oui, et à la prison.
Et à la prison.
En France, on ne fait pas dans la juste mesure, donc il n'y a pas de nuance. On a été inversé le balancier de 180 degrés, très brutalement, au moment même où on voyait que le loup revenait, et sans du tout anticiper les conséquences de son retour.
Donc le loup est revenu tout seul, puisqu'il était de plus en plus protégé et de moins en moins chassé. Quel intérêt à ce que le loup revienne? C'est qu'il reprenait ses espaces naturels, question de biodiversité?
Alors, cet intérêt, il se discute. Il peut se comprendre et il peut se combattre. Cela dépend, à mon avis, des territoires. Je pense qu'en la matière, on a le droit de faire preuve de discernement et de considérer qu'il y a des espaces en Europe où l'urbanisation, l'occupation du monde rural et les activités agricoles s'opposent à l'arrivée d'un grand prédateur qui ne va que créer des perturbations. Cela ne veut pas dire qu'il faut pour autant éradiquer ou exterminer le prédateur en question.
Oui, on peut ne pas être extrême, c'est ça que vous dites.
Ben oui, on peut peut-être territorialiser un petit peu sa gestion. On peut peut-être assurer une régulation pragmatique et efficace.
Faire quoi? Un animal moins strictement protégé, mais protégé tout de même?
Oui, il y a tout simplement dans la réglementation européenne un autre statut, qui est le statut de protection simple, qui ouvre la porte davantage à une sorte de légitime défense de la part des milieux de l'agropastoralisme qui sont confrontés à l'animal.
Parce qu'ils les menacent vraiment, ces milieux de l'agropastoralisme, ces bergers, ces
régulièrement, c'est une véritable détresse sociale. Sauf exception, il y a toujours des exceptions. On a un milieu qui connaît de plein fouet le passage du loup et qui a une vie complètement perturbée jour et nuit. Avec des conséquences physiques, des conséquences matérielles évidentes, mais des conséquences psychologiques tout aussi importantes. C'est-à-dire que leur vie est complètement désorganisée et que toutes les mesures de protection qui sont prises ont eu pour résultat d'abord de réduire les pertes, c'est un fait, mais pas de les supprimer. Et ensuite, le loup contournant tous ces processus, notamment les chiens de protection, notamment les parcs électrifiés, etc. Eh bien maintenant, le niveau de protection ne suffit plus, les dépenses ne suffisent plus, Et les bergers et les éleveurs sont dans une situation très difficile.
Autour de la question comment vivre avec loup, je propose un autre point de vue, un autre éclairage. C'est celui du naturaliste de terrain et auteur animalier Marc Giraud qui, lui, veut faire entendre le point de vue écologiste sur le loup. On l'écoute.
On n'entend aujourd'hui que le point de vue du berger, que je comprends, attention. Être pour la protection du loup, c'est pas être contre le berger, loin de là. Mais il faudrait aussi raison garder. C'est un animal protégé, il y a des raisons. Il y a à peu près 300 loups en France. Il y en a 2500 en Espagne. En Espagne, il n'y a quasiment pas de problème. En France, c'est l'hystérie. Même des Maguelaines royales. Et pour la chasse aux loups, quand même, c'est la ministre de l'écologie et de la protection de la nature. On a fait fuir des loups depuis les parcs naturels en France. On fait n'importe quoi. On n'a que le point de vue du berger que je peux comprendre. Mais souvent, c'est pas des bergers d'ailleurs, c'est des éleveurs qui ont des milliers de primes à la bête pour avoir leur troupeau, qui les lâchent comme ça, qui les protègent pas toujours. Et on n'a pas d'autre point de vue que le point de vue économique. La filière ovine est très très mal et on ne parle pas des autres problèmes. Le loup, c'est rien du tout par rapport aux problèmes de la filière ovine. Par exemple, dans le Poitou, elle s'est écroulée d'à peu près la moitié, la filière ovine. Il n'y a pas de loup là-bas. Et dans le Mercantour, dans les Alpes, elle ne s'est écroulée à peu près, je vous dis ça de mémoire, de même pas 30%. C'est-à-dire que là où il y a des loups, ça s'est moins écroulé que là où il n'y en a pas. Donc il faudrait raison garder et surtout que les éleveurs arrêtent de se comporter comme des propriétaires irascibles qui considèrent que la montagne n'appartient qu'à eux. Et nous. Et les gens des villes qui ont besoin de nature sauvage, etc. Et les leçons qu'on va donner en Afrique pour protéger les lions, etc. Oui, le loup peut poser des problèmes. Moi, j'ai des animaux, je suis éleveur aussi, j'ai deux chevaux. J'ai pas envie qu'ils se fassent bouffer par des loups, mais je suis quand même pour la protection des loups. Et j'aimerais bien qu'on entende de temps en temps l'avis des protecteurs et l'avis des Français. On a fait un sondage avec l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, où 80% des Français étaient contre l'éradication du loup, contre la chasse au loup, même les ruraux, et surtout les ruraux d'ailleurs. Faut pas dire que c'est les gens des villes non plus, voilà.
C'est-à-dire que le loup serait toujours, pas un bouc émissaire, mais quand même toujours aujourd'hui.
On a cristallisé pour des raisons politiques le c'est facile, la haine du loup. Même Beauvais s'y est mis alors qu'il est censé être écologiste. C'est facile de dire tous vos problèmes c'est le loup, donc on se focalise, on réunit tout le monde. Mais c'est pas vrai. Il y a une petite mouche qui est responsable d'une maladie qui s'appelle la langue bleue, qui fait des milliers de fois plus de victimes que le loup. Le loup, c'est rien. Chaque année, on détruit à peu près, on brûle 500 000 brebis. On les brûle, on les met pas dans la filière viande, c'est des brebis de réforme, on les brûle. Le loup, c'est rien du tout à côté de ça. C'est rien du tout. Donc, Beauvais disait, le loup, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais arrêtons de focaliser sur la goutte et occupons-nous du vase.
Le loup, bouc émissaire, que vous inspire Jean-Marc Morisseau, cet éclairage de Marc Giraud qui représente un vrai courant de pensée aujourd'hui?
Je suis terrifié quand, en tant que scientifique et en tant que citoyen, quand j'entends tels propos de donneurs de leçons, parce que, évidemment, la réalité est complexe. On peut toujours prendre un élément de cette réalité pour la mettre en avant et en contradiction avec le reste. Mais je pense qu'il faut avoir le sens de la réalité en général et de la relativité. Bon, je vais aller très rapidement, il y aurait tellement de choses à dire, notamment sur ce qui vient d'être annoncé à l'antenne. La première chose, selon laquelle les choses se passent très bien ailleurs, que le loup est un problème hexagonal, en Espagne, c'est entièrement faux. Pourquoi cela se passe bien en Espagne? Restons uniquement sur l'Espagne, puisque notre interlocuteur ne parle que de l'Espagne. Parce que l'Espagne connaissait le loup, elle en avait gardé à peu près 1500 à 2000 en Nouvelle-Castille et en León. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé une dérogation à la Convention de Berne pour rendre le loup chassable au nord du Duero, là où il pose vraiment des problèmes. En Espagne, il y a des plans de chasse. Quand le loup est intolérable, il est abattu légalement, sans aucun problème. Et en plus, en Espagne, il y a du braconnage. Et en plus, les éleveurs en Espagne...
C'est-à-dire du braconnage, ça veut dire que des loups sont tués sans que ça se sache.
Mais il peut être tué légalement en Espagne, le loup, et facilement. Donc il y a une sorte de cohabitation forcée. N'allons pas croire que les éleveurs espagnols se réjouissent de la situation. Ils la supportent plus ou moins, mais ils ont un peu la loi avec eux et peuvent braconner. Le deuxième élément, c'est que cette goutte d'eau qui fait déborder le vase ou ce petit problème de rien du tout, moi ça me gêne beaucoup. Quand je vois des centaines de personnes en détresse, dont certaines abandonnent le métier à
vous
cause du loup.
Vous parlez des bergers, des éleveurs?
Ah, je parle des bergers et des éleveurs, mais pas uniquement de 8 ou 9 départements. Maintenant, il y a 25 départements qui sont concernés, et en plaine également. Ça me gêne beaucoup parce qu'ils sont toujours minoritaires dans la population. Or, le loup n'est pas qu'un problème de statistique. J'ai beau faire partie des millions de citadins qui ont le droit d'avoir un avis, je ne ferai jamais partie des milliers de bergers et d'éleveurs qui seront confrontés tous les jours au loup. Donc ça me rend un peu plus humble en matière de donneur de leçons. Et puis l'autre problème, c'est que le loup, évidemment, lui, il s'adapte à toutes les situations. C'est un animal opportuniste qui va partout. Et ce qu'on a vu dans les Alpes-Maritimes, dans les Hautes-Alpes, il y a 10 ans, et qui sème encore vraiment la terreur aujourd'hui dans les milieux pastoraux, on commence à le voir maintenant dans la Meuse, dans l'Aube, dans la Marne, en Lozère, dans le Cantal, en Haute-Loire. Et les problèmes se multiplient, on les anticipe pas.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, Jean-Marc Morisseau? Puisque vous dites finalement on est très extrême, on a maintenant strictement protégé le loup, on va pas exterminer ou éradiquer tous les loups, on va pas tomber dans l'autre extrême.
La question n'est pas de tomber justement dans l'autre extrême, mais elle est d'éviter le négationnisme. Elle est d'éviter de nier que le loup pose des problèmes quand même à la société et à l'élevage en particulier.
Donc tout mettre sur la table et y réfléchir et oser le dire.
Oui, et puis surtout ne pas camoufler les choses. C'est-à-dire que, bien sûr, le secteur du pastoralisme était, dans beaucoup de régions, en difficulté. Et le loup, il n'a pas seulement révélé ses difficultés, il les a aggravées. Et même dans certains secteurs, il n'y avait pas de difficultés. Il y avait des productions d'agneaux de Sisteron de qualité, avec ce que les Français cherchent, c'est-à-dire un élevage à l'air libre et pas du tout un élevage en batterie ou dans les usines, en quelque sorte.
Pour qu'on puisse conserver cet élevage à l'air libre, il faut quand même un peu limiter les loups.
Mais c'est-à-dire que si on est écologiste jusqu'au bout, si on veut respecter la nature, comme si la nature elle existait, eh bien il faut aussi faire la part des choses. Et donc le loup est un prédateur, et donc si on veut que l'élevage à l'air libre se maintienne, il faut réguler le loup. Il faut abattre les loups dans les zones où il est vraiment insupportable. Il faut réguler le loup d'une manière différentielle selon l'impact qu'il présente sur l'économie, la société et le territoire.
Donc il faut revoir notre contrat avec le loup autour de la question comment vivre avec le loup, justement, animal totémique de beaucoup de peuples du Grand Nord et notamment des Amérindiens qui vivent ou vivaient dans les grandes plaines nord-américaines. On écoute John Trudell, poète et musicien, porte-parole des droits des peuples amérindiens. Crazy Horse sur RFI.
Oh, crazy horse. We hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth, the people walk upon. We are the land. How do we sell our mother? How do we sell the stars? How do we sell the air? Crazy horse, we hear what you say. Too many people standing their ground, standing the wrong ground. Predator's face, he possessed a race. Possession, a war that doesn't end. Children of God, feed on children of earth. These people don't care for people. These days are the hardest. Material fields, material harvest. Decoration on chain that binds. Mirrors gold. The people lose their minds. Crazy horse, we hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth. The people walk upon. We are the land.
La balade de John Chaudel sur RFI, rocker, poète et militant des droits amérindiens autour de la question comment vivre avec le loup. Je vous propose un nouvel éclairage vu d'ailleurs, vu par les Amérindiens justement du Grand Ouest américain, relayé par le géographe Nicolas Barbier, chercheur associé au laboratoire de géographie environnementale de Clermont-Ferrand, auteur d'un article sur les Amérindiens, porte-parole du loup, dans le très beau numéro de la revue Bibaud consacré au loup et édité chez Glénat. Nicolas Barbier revient sur les relations privilégiées entre la tribu des Nez Percés et le loup, leur animal totémique. Le loup placé en 1974 sur la liste fédérale des animaux protégés, sauf que l'état de l'Idaho était hostile à cette réintroduction du loup. Il a fallu l'appui et l'intermédiaire des Indiens Nez Percés pour organiser dans cet état, comme l'a expliqué Nicolas Barbier à Sophie Joubert, le retour du loup.
L'état fédéral a fait appel à la tribu des Nez Percés pour devenir co-gestionnaire de terrain du loup et la tribu était d'accord parce que pour eux, le loup a toujours été un animal important qui nourrissait entre autres leur légende. Et le loup leur a toujours enseigné certaines valeurs jusqu'à aujourd'hui, comme le courage, le sens du partage, de la nourriture par exemple, et l'union au sein du groupe. Donc les Indiens avaient une affinité spirituelle avec le loup, et c'est ce qui a motivé leur participation à la co-gestion et aussi l'idée qu'ils voulaient devenir co-gestionnaires d'espèces animales en voie de disparition ou disparues sur leur territoire. Les Nez Percés se voient comme les porte-paroles du loup et essayent de le défendre face à l'action, en l'occurrence, d'autres êtres humains qui ont tendance à mettre en danger les conditions de vie du loup, voire à l'exterminer pour certains.
Quelle a été l'issue de cette co-gestion des loups par les Nez Percés dans l'Idaho? Est-ce que ça a fonctionné, Nicolas Barbier?
Oui, ça a fonctionné, disons, dans la mesure où les Nez Percés ont accepté le rôle qui leur était proposé. En fait, ils n'avaient pas le choix. Soit ils acceptaient le rôle qui leur était proposé par l'État fédéral, soit ils n'avaient rien. Et donc ce rôle, en fait, c'est de collecter des informations sur l'évolution des meutes et leur mouvement grâce à des récepteurs GPS qui sont placés sur les loups. C'est un rôle qui reste limité sur une partie de leur territoire autochtone et qui est limité à ses missions scientifiques et éducatives. Il est satisfait seulement en partie parce qu'ils n'ont pas de rôle décisionnaire, par exemple concernant les quotas, le nombre de loups à tuer chaque année. Et bien souvent, la plupart des Nez Percés souhaiterait que les loups ne soient pas tués sur les terres fédérales qui constituent la majeure partie de leur territoire autochtone. Mais ça, ils n'ont pas le choix. Donc ils ont un rôle scientifique, ils souhaiteraient avoir un rôle plus étendu, mais que l'État fédéral ne souhaite pas leur donner.
Puisque la chasse au loup a réouvert en 2011 et le loup a été retiré de la liste des espèces protégées.
Oui, et ça, c'est l'État fédéré d'Idaho qui a reçu le feu vert de la part de l'État fédéral pour ouvrir des saisons de chasse aux loups auxquelles la tribu ne participe pas. Et là, je viens de voir les statistiques. En 2013-2014, la saison de chasse aux loups est traduite par l'abattage d'environ 300 loups, la plupart dans des terres fédérales, dont certaines sont localisées dans le territoire autochtone des Nez-Percés.
Même dans ces très grands espaces américains, le statut du loup pose question. Vous voulez réagir à cet éclairage du géographe Nicolas Barbier, Jean-Marc Morisseau ?
Oui, c'est intéressant parce que sur la planète, toutes les sociétés ne sont pas égales, les territoires ne sont pas les mêmes, les environnements ne sont pas les mêmes. Et donc, ce qui peut être expérimenté en Amérique du Nord est tout à fait intéressant, mais ne doit pas être transposé tel que immédiatement en Europe. Les conditions ne sont pas les mêmes. On peut évidemment regarder, on peut discuter et comparer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ces transformations et ces identités particulièrement différentes d'une région du monde à une autre. Et le loup, l'élément en évidence.
Oui, le loup l'élément en évidence, à la fois parce qu'il est donc cet animal totémique des tribus indiennes, il symbolise la nature, et parce que c'est très différent, quoi, dans ces grands espaces américains où il y a de la place et pour le loup et l'homme, et pour une cohabitation plus facile qu'en Europe.
Cohabitation plus facile, entre guillemets, parce que le mot cohabitation, c'est encore un terme d'urbain, hein, qui fait plaisir aux gens des villes.
Nous, on aimerait bien nous cohabiter avec les loups.
Oui, voilà, c'est plutôt du domaine du rêve. Qu'il y ait une coexistence forcée ou induite, d'accord. Ça ne veut pas dire cohabitation. Cohabitation, ça se prépare, ça se gère et ça suppose un minimum de consensus. Je ne sais pas si entre l'homme et le loup voisin, vraiment régulièrement l'un de l'autre, y ait cohabitation. Simplement, il y a des différences importantes dans les sociétés d'élevage, dans les grands espaces de l'Asie du central ou bien de l'Amérique du Nord, c'est sûr, où ce sont des espaces à faible densité humaine, où la pression et la concurrence entre l'homme et le loup sont relativement faibles, et puis les espaces européens. Mais même dans ces espaces-là, le loup a une double image. À la fois une image fascinante, avec les vertus qu'on lui prête, mais également le loup est chassable. Hein, le loup peut être un danger. Il est vécu doublement. Donc, il n'est pas angélisé, il n'est pas sanctuarisé comme il l'est un peu dans certains milieux aujourd'hui en Europe.
Vous militez, en fait, j'ai envie de dire, en tant qu'historien, Jean-Marc Morisseau, pour une sorte d'état généraux du loup, pour que tout le monde se rassemble, ces chercheurs, spécialistes de la question, ceux qui veulent protéger le loup, ceux qui, au contraire, les éleveurs ou les bergers qui en souffrent, pour qu'on réunisse tout le monde autour du même table et qu'on dise les choses, c'est ça ?
Oui, quitte évidemment à me faire critiquer, à la fois par la gauche et par la droite, par les lycophobes et les lycophiles.
Lycophobes et lycophiles.
Oui, c'est-à-dire ceux qui adorent le loup ou ceux qui le détestent. Je pense qu'il est absolument nécessaire que les gens qui ont travaillé sur le loup, les gens qui connaissent le loup ou les gens qui subissent le loup puissent vraiment se rencontrer et faire part de leur expérience. Ça fait 20 ans qu'on a l'expérience du loup en France. Les historiens ont une expérience de 2000 ans du loup.
Vous recensez, d'ailleurs, vous avez recensé oui. Le nombre d'attaques de loups. Enfin, on va y venir, il y a un site internet oui. Sur lequel les auditeurs, enfin les internautes peuvent participer, etc.
Tout à
enfin,
fait.
Vous recensez toutes les attaques
tout
de loups.
Tout à fait, on a un site Hommes et loups à l'université de Caen, qui est animé par Cyril Guénon et moi-même, et qui a, dans un premier temps, recensé 3000 victimes humaines de loups dans 85 départements français que l'on peut consulter, qu'on peut alimenter et vérifier.
Et en même temps, vous ne voulez pas nous donner la peur du loup,
non,
c'est pas du tout
non,
ça, vous n'êtes pas anti-loup.
Bien sûr, d'ailleurs ce site fera place aux loups enragés, puis ensuite à l'inverse, à la chasse aux loups, c'est-à-dire aux primes de chasse et aux moyens quelquefois détestables que l'homme a mis en place pour venir à bout du prédateur pendant la période historique. Donc non, mon souci n'est pas d'être pour ou contre le loup, il est de voir les réalités en face et quand même d'essayer d'aboutir à un progrès quand même de l'humanité, du savoir-vivre, hein, qui permette de respecter des espaces de protection de la nature, entre guillemets, et de l'animal sauvage, sans compromettre pour autant les activités humaines et le développement économique.
Vous croyez que cette question du loup, elle peut, comment dire, s'apaiser, devenir moins sauvage, justement ?
Pas facilement, mais en tout cas, ce n'est pas en pratiquant la loi du silence ou bien en juxtaposant les points de vue sans qu'ils puissent se rencontrer ou en donnant des leçons aux autres de manière péremptoire ou en évitant un dialogue européen, puisque c'est par l'Europe que l'on pourra s'en tirer par le haut, par une nouvelle réglementation, que les choses avanceront. Il faut absolument travailler ensemble.
Et au cas par cas, finalement, peut-être.
Oui, et avec un discernement spatial, avec une échelle de réponse qui est territorialisée, avec un comportement pragmatique qui dépasse les idéologies et les fanatismes.
Merci Jean-Marc Morisseau d'être venu en direct nous faire partager justement toutes ces réflexions sur l'histoire passée, présente et à venir du loup et de l'homme. Je rappelle le titre donc du dernier ouvrage collectif que vous avez dirigé, Vivre avec le loup, point d'interrogation, 3000 ans de conflit aux éditions Talendier. On peut aussi dire que vous avez en préparation Le Loup en question, hein, qui sera édité au printemps, hein, début mai, je crois, chez Buchet-Chastel. On peut également citer votre site, donc Homme et Loup, associé à l'Université de Caen. Le lien est bien sûr sur notre page. Et puis la très belle revue Bibaud, éditée par Glénat et la Maison de la Chasse et de la Nature, qui s'intitule tout simplement Le Loup. Merci à vous.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, ce n'est pas un, mais des univers multiples que nous tenterons d'imaginer avec l'astrophysicien Aurélien Barraud, qui nous fera découvrir une nouvelle cosmologie aussi inventive que sidérante et vertigineuse, celle des multivers. À découvrir demain, on s'accrochera avec Guillaume Ploquin à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, merci de votre curiosité et de votre interactivité. Dans quelques instants, dans 30 secondes, un nouveau journal sur RFI.